Tout d'abord, la Russie, c'est un des rares pays où on a ce qu'on appelle le flat tax, c'est-à-dire un impôt à taux unique. Donc si vous êtes riche, vous êtes imposé comme les autres à 13%. Ça a été introduit à l'époque pour favoriser la régularisation d'argent qui avait fui la Russie. Mais aujourd'hui, comme ça arrange beaucoup d'hommes puissants, ce phénomène perdure. Ensuite, il y a la période spécifique de la transition qui fait que beaucoup de gens ont pu se faire de l'argent en espace de temps très limité, avec des méthodes parfois très douteuses, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ensuite, il y a également la variable qui est relativement importante dans les mesures des inégalités, c'est la taille du pays. On constate que plus le pays est grand, plus les inégalités sont fortes. C'était par ailleurs également le cas de l'Union soviétique, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'était un des pays les plus inégalitaires du bloc socialiste.
Est-ce qu'il y a un lien entre ces hommes très riches et le pouvoir politique ?
Évidemment, il y a bien entendu des liens relativement puissants. Enfin, la Russie ici ne fait pas figure d'exception. C'est notamment le cas dans beaucoup de pays où les institutions sont faibles. Donc plus les institutions sont faibles, plus les compromis politiques sont favorables à des gens qui ont de l'argent. C'est-à-dire qu'en ayant de l'argent, vous pouvez investir dans le politique et en possédant des leviers d'influence dans la sphère politique, vous pouvez au moins empêcher la remise en cause des compromis qui vous sont profitables. Donc je pense que effectivement, aujourd'hui, l'impôt à taux unique, il est complètement dépassé par les événements, parce qu'il ne sert plus à son objectif initial de sortir l'argent de l'ombre. Aujourd'hui, ça ne sert plus à cela. Mais effectivement, cet impôt est toujours maintenu. Il y a un débat public en Russie assez vif aujourd'hui pour remettre cela en cause, mais comme on constate à l'heure actuelle, pour l'instant, ce n'est pas fait.
Vous parliez tout à l'heure aussi de méthodes douteuses. Est-ce qu'on peut être milliardaire et être complètement honnête en Russie ?
Je n'exclus pas éventuellement qu'il y a des gens qui se sont fait leur fortune de manière plus ou moins honnête. Il y a des gens qui ont racheté des actions pour 3 bouchées de pain dans les années 90 pendant les enchères relativement douteuses, où les gens qui étaient invités étaient les gens proches aux organisateurs des enchères, soyons honnêtes. Et effectivement, ces actifs se sont appréciés par la suite. Bon, pour vous donner un exemple, M. Abramovitch avait acheté Sibneft à l'époque pour quelques centaines de millions de dollars qu'il n'avait même pas vraiment payé, pour être clair. Et il a revendu cette compagnie à l'État russe il y a peu pour 13,1 milliards de dollars, pour être précis.
Monsieur Abramovitch, qui est donc le propriétaire du club de football anglais Chelsea.
Entre autres, oui, entre autres. Et donc vous voyez bien l'écart, il y avait une dizaine d'années qui se sont écoulées entre l'achat de cette entreprise par Abramovitch et la vente de la même entreprise par Abramovitch à l'État. Et vous voyez bien que l'écart se chiffre quand même pas en dizaine de fois, même en centaine.
Est-ce qu'on peut parler de mafia aussi ?
Le mot mafia est peut-être déplacé. D'autant plus qu'en Italie, ça a quand même une connotation relativement précise. Mais vous pouvez convertir le pouvoir économique en pouvoir politique et inversement en Russie, et c'était largement le cas dans les années 90. Ça l'est un peu moins depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, mais ça reste quand même un gros souci.